Chapitre 11. En action. À 7 heures précises, Chantecoq, qui était l'exactitude même, sonnait à la porte des avriers, flanqué de son infirmière. Cyprien, le valet de chambre, venait leur ouvrir, et croyant reconnaître immédiatement le docteur Ramet, il fit, conformément aux instructions que lui avait données son patron, « Si monsieur le docteur veut bien me suivre ainsi que mademoiselle, monsieur vous attend tous deux dans son bureau. » Silencieusement, Chantecoq et Météore emboîtèrent le pas au domestique qui les conduisit dans le cabinet de travail où se trouvait en effet l'industriel. Immédiatement, celui-ci attaquait avec une satisfaction visible. « Oh, décidément, monsieur !» Chantecoq lui fit un signe imperceptible de la main qui signifiait clairement « Prenez garde !» Avrier comprit tout de suite le fond de sa pensée et se reprit. « Mon cher docteur, vous n'êtes pas seulement un grand médecin, vous êtes aussi un merveilleux chronomètre. » Chantecoq s'inclina, fit de nouveau signe au père de Martine d'avoir à garder le silence, puis il se dirigea à pas de loup vers la petite porte qui communiquait avec le bureau du secrétaire. Doucement, avec beaucoup de précautions, il saisit le bouton de la porte et voulut l'ouvrir. Mais la porte résista, elle avait été fermée à l'intérieur, au verrou. Chantecoq eut un sourire de satisfaction. Puis revenant vers M. Avrier, il lui murmura à l'oreille « Le bureau de votre secrétaire a-t-il une autre issue au dehors ?»« Oui, une porte dissimulée derrière une tenture et qui communique avec un couloir de service aboutissant en lui-même à un escalier descendant dans les sous-sols. » Bien, nota Chantecoq. Oh, cela vous confirme tout à fait que je suis sur la bonne piste. Et il murmura cela, comme s'il se parlait à lui-même. Maintenant, nous allons pouvoir travailler. À voix basse également, M. Florent Avrier demandait au détective. Alors, vous croyez qu'il y a quelqu'un dans le petit bureau ? Chantecoq dressa l'oreille, demeura silencieux pendant quelque temps. Puis il fit « Tout à l'heure, oui, mais maintenant, il n'y a plus personne. » Il retourna vers la porte, fit manœuvrer la poignée et pénétra cette fois sans résistance dans l'antre de Philippe Potier. La pièce était vide. À haute voix, cette fois, le détective s'écria « Vous voyez, je ne me trompais pas !» Et d'un bond prompt comme l'éclair, il se précipita vers une tenture qui pendait le long de la muraille et l'écarta vivement. Ainsi que l'avait dit M. Avrier, il y avait là une porte. Le limier voulut l'ouvrir, mais impossible. Elle était fermée à double tour. Il se baissa, approcha son œil de la serrure et constata que la clé y était restée. Le gaillard a pris ses précautions, fit-il. Et comme on dit vulgairement, il a assuré ses derrières en cas de surprise et de poursuite. Il ne perdra rien pour attendre. Maintenant, monsieur Avrier, nous allons nous livrer à une première expérience. Je vais rester dans cette pièce et, après en avoir refermé la porte, veuillez avoir l'obligeance de retourner avec Météore. Je puis bien maintenant l'appeler par son nom puisqu'à présent, aucune oreille indiscrète nous écoute. Donc, vous allez entamer avec mon secrétaire une conversation sur le même ton que vous vous entretenez avec quelqu'un. J'y vais, décidait l'industriel, qui, conformément au désir de Chantecoq, passa dans son cabinet dont il referma la porte. Chantecoq tendit l'oreille. Au bout d'un instant, il entendit bien un murmure de voix qui s'élevait de l'autre côté de la cloison. Mais bien qu'il eût l'ouïe extrêmement fine, il fut impossible de saisir autre chose que quelques mots espacés auxquels était impossible de donner une véritable signification. Après, il se leva. L'épreuve était concluante et il s'enfuit dans le cabinet de travail de M. Avrier auquel il dit « Il est impossible du bureau de votre secrétaire d'entendre ce qui se dit dans le vôtre. Alors, s'étonnait le père de Martine, c'est donc pas de là que j'étais espionné. Aussi, répondait Chantecoq avec un accent de conviction absolue, il doit certainement exister, caché je ne sais où encore, mais je veux bien le découvrir. Un microphone grâce auquel tout ce qui s'est dit ici doit être entendu là. Et s'adressant à Météore, qui avait déposé sur ses genoux une valise qu'il tenait à la main, il fit d'or souriant. « Prudence !»« Non, Constance, patron, pas Prudence. »« De quoi veux-tu pas que je t'appelle Prudence ?»« Eh bien, parce qu'on dit toujours que la prudence est mère de la sûreté et que je suis tout de même encore trop jeune pour avoir une fille de cet âge-là. »« Ah, c'est beau, monsieur Avrier, malgré toutes ses préoccupations, ne put s'empêcher d'éclater de rire. » Quant à Chantecoq, affectant une fausse sévérité, il dit « Bon, d'abord toi, tu n'es pas là ici pour faire le bouffon. » Et d'un ton immédiatement radouci, il ajouta « Allez, petit, donne-moi le vilebrequin. Bon, je sauère et le marteau ca. » Météore se leva, déposa la valise à terre et l'ouvrit toute grande. Elle contenait un véritable arsenal de menuisier. Il choisit les outils que lui demandait son patron et il les lui remit. Chantecoq retourna sur le parquet, examinant avec attention les lames de bois dont il était formé. Son regard s'arrêta sur l'une d'elles, qui semblait séparée de ses voisines par un interstice un peu plus large que les autres. Avec assurance, il murmura « C'est là, certainement !» Il prit le vilebrequin, fit un trou dans le bois assez large pour laisser passer son petit doigt, qu'il engagea sous l'ouverture, tâtant pour voir s'il ne contrôlerait pas un objet résistant. Et bientôt, relevant la tête, il tourna vers M. Florent, le regard plein de triomphe en disant « Mais je ne me trompais pas, il y a un fil qui passe là-dessous. Vous croyez ? J'en suis sûr, je vais vous en donner immédiatement la preuve. » Il prit son ciseau, l'introduisit dans la rainure du parquet, frappa sur la poignée quelques coups de marteau et exerça une presse très forte sur la lame de bois qui se souleva. Et achevant de l'enlever avec ses mains, il montra à l'industriel un fil téléphonique qui, venant de son bureau, aboutissait à la table de travail de Philippe Potier. Sans la moindre hésitation, il fit « Le récepteur doit se trouver dans l'un des tiroirs du bureau. » « Malheureusement, observait Florent, ils sont fermés à clé. »« Ce n'est pas bien gênant, » répliquait le détective. Et se tournant vers Météore Constance, il ajouta, après avoir lancé un rapide coup d'œil aux serrures des deux tiroirs, « Allez, donne-moi le trousseau numéro 5. » Météore revint vers la valise qui était restée dans le cabinet de travail de M. Avrier et reparut avec l'objet demandé. Chantecoq s'en empara et, après avoir essayé en vain trois clés dans les serrures, il réussit avec la quatrième à ouvrir le tiroir de droite. Il ne contenait que des papiers sans importance. « Mais voyons l'autre, » fit-il. Il l'ouvrit sans peine. Il semblait rempli de papier carbone et de grandes enveloppes jaunes. Le limier les enleva et eut une exclamation satisfaite. Au fond du tiroir, il venait d'apercevoir le récepteur d'un microphone. S'adressant à M. Avrier, que cette découverte sensationnelle plongeait à la fois dans la stupeur et dans l'admiration, il fit « Vous voyez, je ne me suis pas trompé. Oh, il est inutile maintenant de rien de moins dans votre bureau pour chercher où aboutit l'autre bout du fil. Maintenant je suis fixé, alors tout va bien. » Alors, scandait le père de Martine, Potier serait un espion. Cher monsieur, déclarait Chantecoq avec un sourire plein de sous-entendu. Ne vous affolez pas, oh, vous n'êtes pas au bout de vos étonnements. Est-ce possible? Oh, nous commençons à peine notre travail. Et afin de bien vous prévenir contre tout événement, je dois loyalement vous déclarer qu'il va falloir vous attendre à quelques coups de théâtre, dont celui-ci n'est qu'un bien faible prélude. Mais c'est effrayant, ne pouvait s'empêcher de s'écrier l'industriel. À qui se fier? Ce garçon, qui, ainsi que je vous l'ai dit, a ses défauts. Jamais je n'aurais pu le croire capable. Eh bien, au fait, j'y pense. Il peut très bien que ce ne soit pas lui. Oh, c'est même certain. S'il est malade, de même très malade. Monsieur Avrier, reprenait Chantecoq, avec cette bonhomie spirituelle qui lui permettait de tout oser, puisque ce monsieur Potier est si malade, laissez-le donc tranquille, et si vous le voulez bien, continuons nos recherches, sans nous hypnotiser sur aucune individualité. Donc je vous en prie, monsieur Chantecoq, faites donc comme bon vous plaira. Je ne suis ici que pour vous remercier en cas de besoin, pour vous renseigner. Je n'ai pas d'autre attention. Parfait, parfait, ponctuait le célèbre limier, s'installant devant le bureau de Potier, en face de la machine à écrire, dont il enleva la housse, qui prit les lettres anonymes et la liste des invités, qu'il avait serré dans son portefeuille, et les étala devant lui. Prenant une feuille de papier blanc, il la fixa sur la machine, il se mit à tapoter sur le clavier, copiant exactement le texte de la première lettre. Quand il en eut écrit une vingtaine de lignes, il s'arrêta, enleva le papier, le compara aux autres documents et se prit à sourire. Se levant, il dit à M. Avrier, en lui montrant d'une main les lignes qu'il venait de taper, et de l'autre celle qui lui avait servi de modèle, « Ne remarquez-vous pas quelque chose d'étrange, monsieur Avrier? Mais ne vous semble-t-il pas que parmi les lettres, l'une d'elles a un caractère particulier, la lettre R, par exemple ?»« En effet, s'apercevait le père de Martine, elle semble dépasser un peu les autres. Eh bien, cher monsieur, ce n'est pas une machine à écrire dont se servait votre secrétaire. C'est une machine parlante, car elle vient de nous révéler tout simplement que c'était Philippe Potier et non un autre qui avait tapé les lettres anonymes et la liste de vos invités. Donc ce gaillard était certainement faisant le malade et il est au courant de tout le travers de l'affaire qui vous occupe. » L'industriel s'écriait. « Oh, en tout cas, il ne peut être qu'un agent et non pas l'auteur principal du complot ourdi contre les miens et moi. » D'un air mystérieux, Chantecoq grommela. « Complot, 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 oh, il faudrait voir. Mais admettons que je n'ai rien dit. » S'approchant de M. Florent Avrier, qui, littéralement bouleversé, s'était effondré sur un siège, il lui dit « Je vous l'avais bien dit, monsieur Florent, qu'il ne fallait pas vous affoler. Je comprends que vous soyez très désillusionné d'apprendre tout à coup qu'un garçon auquel vous avez accordé votre confiance vous ait ignoblement trahi. Mais un homme tel que vous ne doit pas se laisser abattre par un avatar qui n'est rien, à côté du malheur qui vous menaçait. Vous avez raison, monsieur Chantecoq, s'écriait Florent en se relevant avec énergie. Et il ajouta d'une voix raffermie: Oui, pardonnez-moi cet instant de défaillance, mais je viens de traverser une journée si terrible que véritablement, si je ne vous avais rencontré et trouvé sur ma route, si vous ne m'aviez pas rendu le service que vous êtes en train de faire dans cette affaire, je me demande si je n'aurais pas pris complètement. J'étais complètement désemparé. Mais du cran, s'écria Shandcock avec une expression de bonté infinie. Et il ajouta: Oui, je me mets à votre place, cher monsieur. Moi aussi, j'ai une fille que j'adore, qui est toute ma vie. Et je comprends très bien par quelles angoisses vous avez dû passer, dont vous subissez encore le contre-coup si cruel. Je vous plains de tout mon cœur, mais courage. Il faut que vous teniez jusqu'au bout, si pénibles puissent être encore pour vous les événements qui vont suivre. Mon Dieu, mais que vais-je encore apprendre? Murmurait Avrillé. Oh, fit Shandcock, c'est fort simple, et je puis vous le dire tout de suite. C'est que parfois l'on va chercher bien loin ses ennemis, et que les pires, ou plutôt le pire de tous, est tout près de vous. Florent Avrillé allait poser une question au célèbre détective, mais se rappelant que celui-ci lui avait demandé de ne pas lui imposer et lui en poser jamais, il garda le silence. Il se sentait oppressé, mal à l'aise. Chantecoq s'en rendit compte et, comme l'industriel lui était infiniment sympathique, il lui dit « Bon, maintenant, monsieur Avrillé, que je vous ai mis en garde contre des surprises désagréables, je dois vous dire que je vais faire l'impossible pour que tout s'arrange. Je crois que j'y arriverai sans peine, car vous êtes un de ces rares hommes qui méritent d'être parfaitement heureux. Je n'ai pas besoin de connaître les gens depuis de nombreuses années pour les juger. Il me suffit de regarder leurs vœux, leurs yeux, d'entendre leur voix, de sentir la pression de leurs mains pour savoir ce qu'ils veulent. Eh bien, monsieur Avrillé, permettez-moi cette expression familière. Vous êtes un grand bonhomme, mais vous êtes aussi un grand brave homme. Il n'en faut pas davantage pour que je vous sois entièrement dévoué. Comptez donc sur moi et allez dîner tranquillement avec madame Avrillé. Et lorsque, tout à l'heure, le docteur Ramet, le vrai, celui-là, viendra rendre visite à mademoiselle votre fille, dites-lui dans le tuyau de l'oreille que je suis très content, que tout marche très bien, que tout ira bien et que pour l'instant je suis en train de jouer l'avant-dernier tableau du drame. Ajoutez, si vous le voulez bien, que ce soir à minuit, peut-être avant, ainsi que je l'espère, je lui aurai intégralement restitué sa personnalité. Là-dessus, je vous quitte. Je vous demande pardon d'avoir abîmé un peu le plancher de ce bureau, mais il le fallait, n'est-ce pas? Réconforté, le père de Martine répliquait: Bon, cela a à la fois beaucoup, très peu d'importance. Au revoir, cher monsieur, reprenait Shandcock. Je vois qu'une question brûle vos lèvres. Vous voudriez savoir, n'est-ce pas, quand je vous donnerai de mes nouvelles? Oui. Bien demain matin, à 8 heures. Je vous ferai passer un mot sous blic acheté, car j'ignore encore dans quel aspect je me présenterai à vous. Tout cela dépendra de la tournure que prendront les événements au cours de cette nuit. Mais tranquillisez-vous, à 8 heures tapant, je sonnerai à votre porte. Entendu, cher monsieur Shandcock. Je n'ai pas besoin de vous dire avec quelle hâte je vous attendrai en ce moment. Surtout, tâchez de bien dormir, car Vous savez, le sommeil, il n'y a rien de tel pour apaiser les nerfs et vous rendre une forme dont, à nos heures, plus qu'il a tout autre, on a un vivant besoin. Comme l'industriel, le roi des détectives et son secrétaire regagnaient le cabinet de travail de M. Avrillé, Chantecoq dit à ce dernier: Je vais vous demander de me reconduire jusque dans le vestibule, et là, de me dire à haute voix ceci. Mon cher docteur, je suis enchanté de ce que vous me dites au sujet de ma fille. Vous me rassurez entièrement et, puisque vous me l'affirmez, je crois inutile que ce soir, nous gardions cette infirmière. C'est entendu, acquiesçait M. Avrillé. Les choses se passèrent telles que le détective l'avait désiré, en présence de Cyprien, le valet de chambre. 2 minutes après, le faux docteur et la fausse infirmière avaient rejoint le taxi qui les avait amenés et stationnaient le long du trottoir. Le limier lança au chauffeur l'adresse suivante: 37 rue Le Pic. Le taxi s'éloigna à bonne allure. Avant de prononcer un mot, Chantecoq réfléchit pendant plusieurs minutes. Puis, sans que Météore se permît de l'interrompre par la moindre observation, il se prit à monologuer. Oui, évidemment, ce potier est certainement l'auteur des lettres. Son patron m'a dit, premièrement, qu'il était avare, par conséquent intéressé. Il a très bien pu se laisser acheter. Deuxièmement, il paraît qu'il composait des tragédies, ce qui prouve que s'il n'est pas réellement fou, il est tout de même un peu piqué. Lorsque l'on est secrétaire d'un constructeur d'avions, et encore secrétaire particulier, c'est véritablement une drôle d'idée que de s'amuser à utiliser ses loisirs en alliant des hexamètres pour la Comédie-Française et encore moins pour l'Odéon. Troisièmement, toujours d'après ce que m'a dit ce cher monsieur Avrillé, ce Philippe Potier serait amoureux, amoureux d'une étoile. Il aurait même ajouté ce propos, qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, que les étoiles ne s'accrochent qu'au firmament ou sur la poitrine des héros. Mais la poitrine des héros, mais qu'a-t-il voulu dire par là? Voyons, qu'est-ce qu'il y a comme héros à l'heure actuelle? Dis un peu, toi, Météore. Pas trop, oui, non. Mais à ça, tu dors? Non, non, patron, je vous écoute, les yeux fermés, pour mieux me concentrer et ne rien perdre de la leçon de police que vous êtes en train de me donner. Ouais, ponctuait Chantecoq. Attends, veux-tu me dire, s'il te plaît, quels sont, selon toi, les héros du jour sur la poitrine desquels seul peut s'accrocher une médaille? Mais patron, il y a d'abord les aviateurs, et puis surtout le lieutenant Jacques Moret. Pas bête ça, bien déduit même. On dirait que le costume d'infirmière t'inspire. En effet, le capitaine Moret, oh mais je crois bien que je brûle. Une étoile, c'est mademoiselle Martine Avrillé. Le poète tragique en est devenu éperdument amoureux et, croyant qu'elle en pinçait pour Moret, il... Bon, non, arrête-toi, mon vieux Chantecoq, tu es en train de dérailler avec autant de maestria qu'un chemin de fer de l'État. Et puis j'oubliais mon Termet. Et il ajouta, et toi, Météore, qui me disais que je te donnais une leçon de police admirable, quand au contraire je ne formulais que des idioties. Oh, patron, patron, vous vous calomniez. Tais-toi, plus un mot. J'ai besoin de me renfermer dans mon cabinet de travail. Le roi des détectives parut se concentrer sur une pensée qui venait de germer soudain en son cerveau. Ses narines palpitèrent, ses lèvres frémirent, une lueur brillante flamba dans son regard et il grommela: Mais cette fois, ça y est, j'ai trouvé! Chapitre 11, où le roi de détective s'aperçoit une fois de plus qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Le taxi qui a mon échant de coq et son secrétaire s'arrêtait devant le numéro 37 de la rue Le Pic. C'était un immeuble de construction assez ancienne. Il pouvait remonter à la Deuxième République et peut-être même aux dernières années du règne de Sa Majesté Louis-Philippe. Une large porte cochère, flanquée à droite d'un marchand de chaussures et à gauche d'un vin-restaurant, y donnait accès. Après avoir réglé son chauffeur, qui parut d'ailleurs fort satisfait du pourboire que lui octroya le détective, celui-ci, toujours flanqué de sa fausse infirmière, pénétra sous la voûte. Avisant sur la droite une loge de concierge, il s'en fut frappé à l'un des carreaux d'une porte vitrée et garanti d'un léger rideau de toile, derrière lequel on voyait s'agiter la silhouette importante de la préposée au cordon en train de mettre son couvert. « Entrez !» fit la concierge qui répondait au nom poétique de Madame Fleur. Après avoir fait signe à Météore de ne pas bouger, Chantecoq pénétra dans la loge, tout imprégné d'une forte odeur de soupe à l'oignon. Tout en enlevant poliment son chapeau, le détective interrogeait « Monsieur Philippe Potier !» Gratiné par la nature d'une forte moustache qu'elle n'avait même pas pris soin de tailler à l'américaine, Madame Fleur répliquait, sur un ton d'autorité quelque peu hargneuse, « Le petit pavillon au fond de la cour, il n'y en a qu'un, vous ne pouvez pas vous tromper. » Chantecoq demandait, « Savez-vous si Monsieur Potier est chez lui ?» « Bon, il y a des chances. Bon, je vous préviens, vous aurez beau sonner et carillonner à sa porte, c'est toujours pas lui qui viendra vous ouvrir. »« Il est donc si gravement malade. »« Oh, vous êtes au courant ?»« Oh, oui, j'ai entendu dire. »« Ce soir, à 5 heures, il paraît qu'il était en train de claboter. »« Est-ce qu'il y a quelqu'un auprès de lui ?» « Oui, sa femme de ménage, Madame Hertelin, va le voir chaque fois qu'elle le peut, fait de son mieux. C'est bon, il ne peut pas être toujours là. Elle a 4 gosses et puis son homme à s'occuper. »« Alors, dame, Monsieur Potier est plutôt soigné à la flanc. Oh, c'est bien de sa faute aussi. On ne peut pas dire que c'est un mauvais homme, mais il est tellement égoïste, tellement solitaire. » Tellement rapia qu'il ne s'est plus fait beaucoup d'amis. On peut même dire qu'il n'y en a aucun. À moi, cependant, vous en soyez un. » Le plus naturellement du monde, le Chantecoq répliquait. « Oui, je suis le médecin de M. Avrier, le patron de M. Poirier, Potier. Et c'est M. Avrier qui, ayant appris que son secrétaire allait plus mal, m'a envoyé près de lui avec une infirmière. » Madame Fleur appréciait. « C'est très bien, de la part de ce monsieur. Oh, je connais les patrons. Il n'y en a pas beaucoup qui en feraient autant. Malheureusement, je crains que vous arriviez trop tard. »« Oh, mais nous verrons bien, » déclarait le faux médecin. Il ajouta. « Est-ce que cette Madame Hertelin est chez elle ?» Madame Fleur, qui s'amadouait peu à peu, reprenait. « Vous voudriez lui demander de vous ouvrir ?»« Eh oui. »« Elle est partie faire une course dans le quartier, mais elle ne tardera pas à rentrer. »« Si vous voulez l'attendre, je ne voudrais pas vous déranger. »« Oh, ça ne me gêne pas du tout. » Chantecoq aperçut alors son secrétaire qui lui adressait un signe de tête spécial destiné à le prévenir qu'il avait besoin de lui parler tout de suite en particulier. Le limier reprit « Je vous remercie, madame, de votre amabilité. » Et tout en lui glissant un billet de 10 francs dans la main, il fit « Je vais renvoyer mon taxi, et si pendant ce temps, madame Hertelin revient, veuillez être assez aimable pour la prier de m'attendre. »« C'est entendu, monsieur le docteur, » promettait la concierge. qui, à l'ombre de sa moustache en fleurs, s'efforça d'esquisser un sourire qui ne réussit qu'à être qu'une grimace. Chantecoq rejoignait Météore sous la voûte et tout de suite l'entraîna vers la rue. Lorsqu'ils furent sur le trottoir, en face de la boutique du maréchal marchand de chaussures, la fausse infirmière dit au limier « Patron, tandis que vous parliez à la pipelette, j'ai repéré quelque chose de pas ordinaire. » Ah, mais dis toujours, mais voilà, j'ai vu passer près de moi un bonhomme coiffé d'un chapeau mou, rabattu sur le front, les yeux cachés derrière une paire de lunettes noires, les joues et le menton garnis d'une longue barbe roussâtre qui lui donnait un aspect sinistre. Même que j'ai cru un moment que c'était l'ordru qui était revenu sur la terre pour fonder un griot à usage exclusif des vieilles demoiselles en mal d'amour. Et ensuite, pressait le détective, Météore racontait, pour avoir dirigé un rapide regard vers la loge de la concierge, il a continué son chemin d'un pas rapide et il est entré dans un petit pavillon qui se trouve au fond de la cour. Saisissant le bras de son secrétaire, Chantecoq, que ce récit semblait vivement intéressé, s'écria « Mais comment y est-il entré? A-t-il sonné? A-t-il ouvert la porte avec une clé ?»«
J'ai pas pu m'en rendre compte, » déclarait Météore. Car bien qu'il fît encore jour, et étant donné que l'homme à la barbe rousse me tournait le dos, j'ai pas pu contrôler la façon dont il s'y prenait pour pénétrer dans la maison.
C'est dommage, ponctuait le roi le détective, mais nous perdrons rien pour attendre. Et il scanda. Sais-tu qui demeure dans ce pavillon?
Philippe Potier?
Alors ce serait lui, l'homme à la barbe rousse? Mais bien que la concierge vienne de me dire que ce soir, vers 5 heures, il était en train de claboter, il y a 99 chances sur 100 pour que tu aies deviné juste. D'ailleurs, nous allons nous en assurer. Tous deux regagnèrent la voûte. Chantecoq se dirigea vers la loge. La concierge se tenait sur le seuil en observation. Le limier lui demanda « Cette dame est-elle rentrée ?»«
Non, pas encore. »
Et, devenue fort aimable, Madame Fleur proposait « Entrez donc, monsieur et dame, vous êtes en plein courant d'air, vous allez attraper un chaud et froid. » Elle ouvrait toute grande sa porte lorsqu'un cri lui échappa « Ah, Madame Hertelin !» La ménagère en question venait d'apparaître sous la voûte. C'était une petite personne, sèche, maigriotte, noirâtre, à l'œil vif, intelligent, et dont les allures nerveuses, le nez pointu et les lèvres minces ne dénotaient pas précisément un aimable caractère. Elle portait à la main un filet à provisions qui renfermait une bouteille enveloppée dans un morceau de journal.
« Madame Hertelin !» annonçait la concierge en s'avançant vers elle. « Il y a là quelqu'un qui vous demande. »
Madame Hertelin lança vers le faux docteur et la pseudo-infirmière un regard méfiant et déjà hostile. Chantecoq aussitôt intervenait.
« Je suis le docteur Ramey. Je suis envoyé par le patron de M. Potier, M. Avrier, qui m'a demandé de venir voir ce dernier et d'amener avec moi une infirmière. »
D'un ton bref, Madame Hertelin répliquait
« Je regrette, monsieur, mais vous ne verrez pas monsieur Potier. »«
Pourquoi ?» questionnait le détective.
« Parce qu'il a interdit sa porte à tout le monde. »«
Même un docteur ?»«
Encore plus qu'à tout autre. »«
Et pour quelle raison ?»«
Monsieur Potier ne croit pas à la médecine. »
C'est une opinion que tout le monde, madame, n'est pas contraint de partager.
En tout cas, c'est la sienne, déclarait sèchement madame Hertelin.
Et après tout, il est bien libre de son corps. Le limier observait, non sans sévérité. Voilà une théorie, madame, qui pourrait vous conduire très loin, et peut-être même à travers des chemins qui vous seraient désagréables de traverser.
La concierge, qui paraissait entièrement gagnée à la cause du docteur, approuvait ses paroles par d'énergiques hochements de tête. Quant à Madame Heurtelin, nullement intimidée par l'attitude comminatoire de son interlocuteur, elle reprenait de sa voix acidulée.
« Moi, je fais de mon mieux. C'est tout de même pas ma faute si Monsieur Potier ne veut pas se laisser soigner. »«
Prenez garde, » appuyait le détective. « Tout à l'heure, vous avez dit à Madame la concierge que Monsieur Potier était au plus mal. »
« Et en train de claboter, » précisait Madame Fleur. « Ça vous l'avez dit, ma petite, hein, vous pouvez pas le nier. »
« Oui, je l'ai dit, » reconnaissait la femme de ménage, « et après ?»«
Mais c'est très grave, » s'exclamait le policier.
« Comment, voilà un homme qui, de votre propre aveu, est peut-être à l'agonie et vous le laissez seul. »
Madame Heurtelin, de plus en plus aigre, ripostait. « Mais il faut tout de même bien que je m'occupe de vos maris et de mes enfants. »
« Soit, mais vous auriez pu prier quelqu'un de rester auprès de ce malheureux. »
« Me suis offerte, » déclarait la concierge, « mais on n'a pas voulu de moi. »
Madame Heurtelin se défendait.
« Mais puisque M. Potier ne veut voir personne. »
Chantecoq ripostait. « Il est des cas où l'on a le devoir de passer outre aux exigences des malades, surtout lorsque leur vie est en danger. »
« Est-ce que je lui ai dit ?» affirmait Madame Fleur. « Elle est tellement têtue !»
La femme de ménage se rebiffait.
« Je vous prie de vous mêler de ce qui vous regarde. »« Et moi, je vous engage à être poli. »« Je suis poli, c'est vous qui ne l'êtes pas. »
Coupant court à la querelle qui commençait à s'allumer entre les deux commères et risquait de finir on ne sait comment, Chantecoq s'écriait.
« Oui ou non, voulez-vous me conduire jusqu'auprès de M. Potier ?»«
Non !»
répliquait la ménagère, avec une opiniâtreté que l'on sentait irréductible.
« Alors, menaçait le faux médecin, vous allez me forcer de m'adresser au commissaire de police. »
La concierge, qui décidément ne semblait guère la porter dans son cœur, éclata.
« Vous avez raison, monsieur le docteur. » Car c'est comme qui dirait une séquestration. Dans l'immeuble, et même dans tout le quartier, tout le monde dit que c'est la Morricone, c'est comme ça qu'on appelle la personne, qui chope M. Potier pour le gruger et profiter de son héritage.
Mais vous n'êtes qu'une dorée, une choléra,
clamait Madame Heurtelin en rage. Et elle allait s'élancer sur la concierge, lorsque Chantecoq la saisit par le bras et la cloua net sur place. Et sur un ton qui n'admettait pas de réplique, il martela.
Ce n'est pas en insultant les gens que l'on se défend d'une accusation qui m'a tout l'air des plus justifiées.
Vous n'avez qu'une façon de vous disculper, madame. C'est de me mettre immédiatement en présence de M. Potier. Ces paroles, et surtout le ton avec lequel elles avaient été prononcées, apaisèrent instantanément le courroux de l'irascible mégère. Elle eut l'intuition qu'elle se trouvait en présence d'une force supérieure devant laquelle il fallait s'incliner, sous peine d'accumuler sur sa tête des responsabilités qui risquaient de lui coûter fort cher. Et d'un ton encore revêche, elle dit
« Venez, puisque vous l'exigez !» « Moi, je m'en lave les mains. »
Et elle s'enfuit vers le pavillon, suivie par le détective et son secrétaire. Quitte à laisser brûler sa soupe à l'oignon, Madame Fleur resta sur le pas de la porte. Elle était tellement curieuse de savoir comment tout cela allait tourner qu'il fallait faire un très rude effort sur elle-même pour ne pas accompagner les visiteurs, ce qui n'empêcha pas de s'écrier d'un air triomphant.
« C'est égal, je l'ai bien possédé, la petite mère. Et si M. Potier en réchappe, il pourra dire que c'est grâce à moi. »
Arrivé devant le pavillon, qui se composait au rez-de-chaussée d'une antichambre, d'une salle à manger et d'un bureau de petite dimension, et au premier étage d'une chambre à coucher assez grande,
d'un cabinet de toilette et d'un débarras. Madame Hertelin prit dans la poche de son tablier une clé qu'elle introduisit dans la serrure de la porte d'entrée, qui céda aussitôt. « Monsieur, madame, dit-elle au prétendu docteur et la non moins prétendue infirmière, si vous voulez vous donner la peine d'entrer au salon, je vais monter jusqu'auprès de monsieur Potier, car il faut tout de même le préparer à votre visite. C'est inutile, refusait le détective, qui semblait n'avoir qu'une confiance très relative dans la bonne foi de la femme de ménage. Se tournant vers son secrétaire, il ordonna « Constance, demeurez là avec madame !» Et il s'élança dans l'escalier dont il gravit prestement les marches. Au sommet, il se trouva dans un étroit couloir sur lequel donnait une seule porte que Chantecoq ouvrit sans hésiter et pénétra dans une pièce meublée simplement mais proprement et qui ne ressemblait en rien à une chambre de malade. On n'y voyait en effet aucune fiole de médicaments, aucun bol à tisane. Comme la nuit commençait à tomber, Chantecoq tourna le commutateur et aperçut, dans un lit qui formait le fond d'une alcôve dont les rideaux étaient à moitié tirés, Philippe Potier pelotonné sous ses couvertures et la tête à moitié enfouie dans son oreiller. « C'est vous, madame Hertelin ?» articula-t-il d'une voix géniarde. « Non, déclara Chantecoq en s'avançant vers lui. « Je suis le docteur Ramet. »«
Le médecin du patron ?»
fit le secrétaire de l'industriel, d'une voix qui paraissait beaucoup plus trembler de crainte que de fièvre. Chantecoq reprenait. « Oui, monsieur Avrier m'a demandé d'aller voir comment vous allez. »«
Mieux, beaucoup mieux, » répliquait Potier
avec un peu plus de netteté. « Eh bien, nous allons voir ça, » fit le faux médecin.
« Oh, docteur, » priait l'auteur du fils de Salambo, « vous n'avez pas cette peine. Je vous le répète, non, cela va beaucoup mieux. Demain, j'espère bien sortir un peu et reprendre mon service dans quelques jours. Vous remercierez M. Avrier de l'intérêt qu'il veut bien me porter. Ça ne m'étonne pas de sa part, il est si bon. »
« Bien, très bien, » ponctuait le détective. « Monsieur Avrillé, j'en suis sûr, sera enchanté des bonnes nouvelles que je vais lui communiquer. « Mais dites-moi, monsieur Bottier,
docteur,
comment se fait-il que votre femme de ménage ait raconté à la concierge que vous étiez à l'agonie ?» Sans paraître le moindrement démonté par cette question, le secrétaire de l'industriel riposta.
Oh, ça ne m'étonne pas de la part de madame Henri Hertelin. C'est une très brave femme, elle est d'un caractère naturellement exagéré. Mais je lui avais recommandé de dire encore aujourd'hui que je n'allais pas bien. Sans cela, tant de gens se seraient cru obligés de venir prendre de mes nouvelles, et cela m'aurait beaucoup fatigué. Et puis j'aime tant ma tranquillité. Lorsque je suis important, qu'à plus forte raison j'y tiens lorsque je suis malade. »
Tandis que Potier parlait, Chantecoq l'examinait avec son attention perspicace d'observateur et d'analyste, auquel n'échappe jamais nul détail. Au premier abord, cet homme présentait le type d'une banalité courante. Il n'était ni beau, ni laid, ni bête, ni intelligent. Il représentait l'employé ordinaire dans toute sa banalité. Mais par instant, une lueur étrange qui s'allumait dans son regard, pour s'éteindre aussitôt, une légère palpitation des narines, un imperceptible battement des paupières, un furtif frémissement des lèvres, n'était pas sans indiquer que le secrétaire de M. Aprilé devait être animé d'une vie intérieure en contradiction absolue avec ses apparences physiques. Chantecoq remarqua aussi qu'il s'exprimait avec une très grande maîtrise de lui-même, qui prouvait clairement que, non content de se tenir sur ses gardes,
Il avait dû d'avance préparer soigneusement sa ligne de conduite ainsi que son langage. Et il se dit en lui-même, « Monsieur Avrillé est certainement un très grand industriel, mais c'est un bien mauvais psychologue. » Mais comment ne s'est-il pas aperçu au bout de 15 ans que ce potier, qui proclame un brave garçon, dévoué, modeste, honnête par excellence, n'était que le plus fief et des hypocrites et à coup sûr le plus madré des coquins. Maintenant, en effet, le siège du détective était fait. Pour lui, il n'y avait pas l'ombre d'un doute, le bandit qui avait tapé à la machine les lettres anonymes, toutes les quatre étaient devant lui. Ce malade qui se cachait dans ses couvertures était fort bien portant et ne faisait que continuer, devant celui qu'il prenait pour le docteur Ramey, la comédie qu'il avait montée de toutes pièces en vue de se ménager, en cas de grabuge, un indiscutable alibi. Mais si rusé fut-il sous son aspect bonasse et même hébété, il n'était pas de taille à lutter contre le détective extraordinaire qui, tout doucement, sans en avoir l'air, était en train de le cuisiner ou plutôt de le mijoter à petit feu. Et non moins placidement que son adversaire avec lequel il se préparait à jouer, comme un chat qui s'amuse avec une souris. Chantecoq reprenait. « Je suis très satisfait, monsieur Potier, de tout ce que vous me dites. Cependant, permettez-moi de vous recommander de ne plus commettre d'imprudence. Monsieur Avrillé tient beaucoup à vous, et il serait désolé que par excès de zèle, vous risquiez une rechute qui pourrait être grave, car c'est bien une pneumonie que vous avez eue. « Bon Dieu, j'en sais pas trop rien, » déclarait le secrétaire. « Qu'avez-vous éprouvé ?»«
Depuis 2 ou 3 jours, je me sentais une sensation de chaleur, de malaise, des maux de tête, des courbatures. J'étais fiévreux, je toussais beaucoup. Lorsqu'un matin, en me levant, je me suis senti pris d'un grand frisson. Je grelottais, je claquais des dents. » Alors je me recouchai et j'eus bientôt beaucoup de peine à me réchauffer. Et comme ma femme de ménage m'eût fait prendre plusieurs tasses de tilleul très chaud, je me suis mis à transpirer. Oh, j'avais la tête en feu, je toussais de plus en plus, j'étouffais, j'avais un point très douloureux dans le thorax. Bref, on se donnait pas du tout.
« Vous avez envoyé chercher un médecin ?»«
Non, » répliquait Potier. « Oh, je m'excuse de ce que je vais vous dire, mais je suis toujours soigné tout seul. J'ai simplement demandé à ma femme de ménage de me mettre des ventouses dans le dos et des cataplasties lapisées sur la gorge et sur la poitrine. J'ai pris quelques cachets de quinine, bu beaucoup de boissons chaudes, observez une diète presque absolue, et comme vous le voyez, cela est passé tout seul. Si je suis resté au lit encore aujourd'hui, c'est uniquement par précaution, car je n'ai plus du tout de fièvre.
Vous en êtes sûr?
Oh, absolument.
Avez-vous pris votre température?
Ignore absolument l'usage du thermomètre.
C'est un tort. Il se peut très bien que vous ayez encore un mouvement fébrile, car, d'après ce que vous venez de me dire, vous avez eu justement, sinon une forte pneumonie, mais tout de moins ce qu'on appellerait autrefois une fluxion de poitrine. Il n'y aurait rien d'étonnant que, tout en allant mieux, vous ne soyez encore astreint à certaines précautions, d'autant plus que, somme toute, vous ne vous êtes soigné que très superficiellement. « Voulez-vous me donner votre bras ?» Cette fois, Potier eut un mouvement d'hésitation. Chantecoq fit en souriant, « Oh, cela ne vous engage pas à grand-chose. » Le secrétaire de M. Avrillé, craignant sans doute d'indisposer un médecin qui possédait la confiance et l'amitié de son patron, sortit de sous les couvertures dans lesquelles il était enroulé, un bras qui n'était pas précisément celui d'un athlète. La manche de la chemise de nuit, relevée jusqu'au coude, permit même au limier de constater qu'il était d'une certaine maigreur. Avec une gravité toute professionnelle, le sosie du docteur Ramey saisit entre le pouce et l'index de sa main gauche le poignet de son interlocuteur, en même temps qu'il tirait de son gousset un superbe chronomètre en or. Et l'œil rivé sur le cadran, il se mit à compter mentalement les pulsations. Bien que Potier commençât à s'inquiéter de l'assistance que le soi-disant praticien mettait à l'examiner, il ne se doutait pas de l'habile traquenard dans lequel celui-ci était en train de le faire tomber. Une minute après, le détective, qui s'était composé une figure préoccupée, s'écriait « Eh bien, mon garçon, j'ai bien fait de venir. Vous avez un pouls terrible. Oh, vous devez me faire au moins 39,6. Mais je vous assure, docteur, que je n'ai pas du tout cette impression, » protestait le secrétaire, qui à présent laissait percer le vif ennui que lui causait l'intervention de celui qu'il continuait à prendre pour le médecin de son patron. Et perdant le sang-froid qu'il avait jusqu'alors merveilleusement gardé, il ajouta « Je ne comprends pas, je n'ai pas mal à la tête, je n'éprouve aucun malaise, je me sens même faim. » « Allez toujours. Je suis sûr, docteur, que vous vous trompez. Cependant, j'ai la prétention de connaître mon métier. Mais moi, je sais ce que je ressens. Il arrive souvent que des gens bien portants se croient très malades et que des gens très malades se croient bien portants. Alors, laissez-moi vous ausculter. » « M'ausculter ?» répéta Potier en se reculant instinctivement vers la muraille. « Vous ne voulez pas ?»« Non, docteur, je ne veux pas. »« Pourquoi ? Allons parler. »«
Docteur,
répondez-moi donc franchement. » Que si vous refusez de me montrer votre dos, c'est parce que vous craignez que je m'aperçoive qu'il ne porte aucune trace de ventouse.
Mais, docteur,
le moment est venu de jouer franc jeu, monsieur Potier. Lorsque vous me dites que vous allez mieux, vous mentez.
Moi, je mens
effrontément. Et pour la raison bien simple, c'est que vous n'avez jamais été malade.
Moi ?
Monsieur Bottier, vous êtes un coquin. Un coquin assez adroit, j'en conviens, beaucoup plus adroit même qu'on ne saurait se l'imaginer. Puisque vous avez réussi à duper l'homme généreux et loyal que Monsieur Avrier, cet homme a été votre bienfaiteur. Il vous a fait une situation de tout repos, plus qu'honorable. Et donc, autant de vous assurer des appointements que vous avez thésaurisés, ça, c'était votre affaire. Au point qu'aujourd'hui, vous devez être à la tête d'une petite fortune qui vous permettrait de vivre sans rien faire. Monsieur Avrier vous a traité en ami, vous a admis dans son intimité et n'a jamais manqué l'occasion de vous être utile ou agréable. Potier, qui, avec une inquiétude sans cesse grandissante, se demandait où voulait en venir son interlocuteur, répliquait nerveusement « Mais docteur, je ne sais pas pourquoi vous me dites toutes ces choses. Je sais tout ce que je dois à M. Avrier, vous n'avez pas besoin de me le rappeler. Laissez-moi vous dire que je suis lié à lui par une reconnaissance qui ne flirquera comme moi-même, et que jamais je ne saurais trop le lui prouver. Pas possible ! S'exclama Chantecoq d'un ton tellement ironique que Potier en tressaillit d'angoisse. Malgré tout, il voulut tenir tête à celui que maintenant il en était sûr était venu chez lui non pour le secourir, mais pour l'attaquer. Et nettement agressif, il s'écria « Laissez-moi vous dire, monsieur, combien je suis surpris du rôle que vous jouez auprès de moi.
Vous le serez encore bien davantage lorsque vous m'aurez vu le jouer jusqu'au bout, ripostait le limier qui ne quittait plus des yeux sa proie. Mais l'auteur du fils de Salammbô, qui tout en flairant le danger qui le menaçait, était encore bien loin d'en soupçonner l'étendue ainsi que l'imminence, s'écriait presque avec violence. Ah, lorsque monsieur Avrillé sera la façon dont vous êtes acquitté de la mission dont il vous avait chargé, je doute, monsieur, qu'il vous en félicite. Se redressant d'un seul mouvement et terrassant d'un seul coup son adversaire par un de ces regards perçants avec lesquels il avait si bien désarmé ses adversaires, le roi des détectives lançait d'une voix métallique qui vibra à l'oreille du secrétaire, déjà à demi effondré, lorsque M. Avrillé saura que Philippe Potier l'a honteusement trahi, que profitant des grandes libertés et de toutes les facilités qui lui étaient accordées par un patron trop confiant, il a fait installer dans le cabinet du travail de celui-ci un microphone qui communiquait avec son bureau afin de pouvoir l'espionner tout à son aise, lorsqu'il saura d'une façon certaine que c'est lui qui a tapé à la machine, chez lui, sous son toit, quatre lettres anonymes qui avaient pour but de jeter le trouble dans sa maison, de le frapper dans sa femme et sa fille, dans son honneur et dans ses plus nobles affections, lorsqu'il saura enfin que pour des raisons que vous allez me dire, soudoyé par des gens dont il faudra bien que vous me donniez les noms, vous avez cherché à déshonorer de la plus infamante des accusations une jeune aviateur, le capitaine Jacques Moret, qui venait précisément de se couvrir de gloire. Eh bien, monsieur Potier, si monsieur Avrillé ne vous casse pas les reins, si qu'il aura dépassé en charité feu Saint-Vincent de Paul lui-même. Hein, mon bonhomme, vous ne vous attendiez pas à celle-là.
Mais docteur, docteur, bégayait le misérable.
Ne m'appelez plus docteur, s'écria le limier, en arrachant sa fausse barbe et sa perruque. Je suis Shadcock.
Le roi des détectives ?
Lui-même. Et maintenant, mon garçon, bien que vous soyez au lit, il va falloir me casser le morceau, tout le morceau. Sinon, j'ai l'ordre de vous remettre moi-même entre les mains de la justice.
Et si je parle ?
Si vous dites la vérité, précisait Chantefort, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, je suis à même de vous déclarer que vous bénéficierez d'une indulgence que pourtant vous ne méritez pas. » À ces mots, Philippe Potier, qui était devenu d'une pâleur extrême, fit d'une voix tremblante.
« Monsieur Chantecoq, je vais tout vous dire, mais promettez-moi que l'on aura pitié de moi. J'ai tant souffert depuis un an surtout. »
« Dites toujours, ordonnait impérieusement le détective. Après, on verra. »